Crime à Châteauroux de Muriel Lucie Clément. Édition MLC. Chapitre 1. Un jour comme un autre. Je marche dans un couloir, une sorte de tunnel. Les murs sont nus et sales, glaciales et humides. Des carreaux de faïence jaune chassieux les recouvrent. Un passage souterrain pour piétons. Je marche, marche et marche encore. Le plafond me frôle les cheveux. Nulle part le ciel visible. Une vision fulgurante me transperce le cœur. Les vestiges d'une rue? Les trottoirs encore apparents. Les portes également. Certaines, vert olive, d'autres marronnasses. Toutes fermées. Je marche et marche et marche encore plus loin. Tout est désert, sombre. Un vieux lampadaire, contre lequel ni homme ni chien n'a pissé, émet une lueur blafarde. Une odeur fade m'agresse les narines. Pas la fadeur de la mort, non, pire. Je suffoque, j'ai froid. Toutes les portes comportent des numéros. Aucun nom. Je marche lentement, pesamment. Désolé dans cette artère sans vie, pas un seul être. Un tournant, puis un autre, je n'ai aucune notion de la destination. Je marche. J'arrive à une rotonde. Plusieurs rues identiques à celles que je viens de parcourir s'y rejoignent. Au milieu, un énorme pilier soutient le plafond. La lumière a changé. Accroché le guingois, des néons éclairent avec parcimonie. J'entends des pas derrière moi. Je me retourne. Une femme, un enfant de 3-4 ans, serré dans les bras, me dévisage. Des sanglots violents la secouent subitement. Elle hurle. « Ils arrivent ! Ils arrivent !» Elle s'élance d'un bond dans l'ombre, fuyant loin de mon regard hébété. Que veut-elle dire ? Qui vient ? Progressivement, des cris percent le silence. Des pleurs aussi. Cela provient de derrière le pilier. Je le contourne et je les vois. Dans l'une des rues, des hommes en complet veston, impeccables, éventrent brusquement les maisons. Ils en tirent sans ménagement les femmes et les enfants. Les nourrissons sont rejetés avec leur mère à l'intérieur. Les enfants, en état de marché, sont rassemblés, poussés dans un coin comme un troupeau. Les individus travaillent systématiquement, consciencieusement, méthodiquement. Aucune porte n'est oubliée. Petit à petit, ils se rapprochent de la rotonde. Une mère et un enfant s'agrippent l'un à l'autre. C'est la femme que j'ai vue auparavant. Sur un claquement de doigts, les messieurs ordonnent aux soldats surgis du néant d'arracher l'enfant à sa mère. Elle se débat telle une louve prise au piège. Mais que peut-elle faire contre tant? Son enfant lui est enlevé de force. Elle s'effondre, les implore douloureusement. Une mitrailleuse crépite dans la nuit. Le silence aboie. Puis s'installe rapide, surprenant. Pas pour longtemps. Des sons m'atteignent à nouveau. L'enfant, le dos collé à la paroi, est tenu en joue par deux soldats. Les éclats de voix émanent des trois hommes. Le petit ne veut pas les écouter. Il est inquiet, agité. Il essaie de fuir, se cogne au fusil. Les voix s'enflent à devenir des cris. Les murs, le plafond, le pilier renvoient l'écho du vrombissement des mots incessants répétés. Au bout d'un temps interminable, l'enfant se calme. Il les suit. D'une autre rue, un cortège d'enfants survient. Ils portent tous le même tablier noir sur un habit de pensionnaire. Ils marchent en rang de quatre, sans rire, sans parole, sans chanson, parfaitement au pas, sans se presser, régulièrement, classés par ordre de grandeur. Des enfants de plus en plus âgés circulent devant moi, les plus vieux en uniforme de soldat. Subitement, le défilé se termine comme il a surgi. Tout à coup, la rotonde est aussi déserte qu'au début. Je suis une fois de plus seul. Je dois sortir d'ici, m'échapper. J'enfile l'un des passages. Je recommence à marcher. Pernicieux, un sentiment de ne pas progresser me submerge. C'est une rue tellement, tellement, tellement longue. Sans transition, j'en discerne la fin. La lumière du jour tombe, diffuse, tout là-bas, à l'extrémité. Pourquoi cette angoisse, puisque dans quelques instants je serai sorti? Pourquoi? Pourquoi suis-je effrayé? Car j'ai peur. Que verrai-je au bout du chemin? Quoi? Quoi? Ma respiration alourdie engourdit mes poumons, serre mon cœur dans une mâchoire d'acier. Je marche le plus lentement possible, craignant la révélation que m'apportera la clarté. Malgré tout, j'avance. Péniblement, mais j'y arrive. Soudain, je suis à l'air libre. Dehors. Mais nulle part un brin d'herbe, nulle part un arbre. À leur place, seuls d'énormes blocs de granit entourés de pierres plus petites me font face. Des pierres et encore des pierres. Je cherche un passage parmi les rochers. J'escalade des gorges escarpées dont les parois se dérobent. Je trébuche, m'écorche les genoux et les poignets, me brise les ongles. Je pantelle ensanglanté, les tempes prêtes à éclater. Je me faufile dans une crevasse, évitant un gros bloc. Au détour, des cages. La pluie, la rouille ont rongé les grilles. Les traînées rougeâtres trahissent le cheminement des ondées. Je longe les cages tombées en décrépitude. Plusieurs n'ont plus de toit, d'autres plus de murs. Toutes, cependant, brandissent fermement leurs barreaux intacts toujours debout. De toute évidence, les ruines d'un jardin zoologique. Des rectangles en plastique blanc aux lettres gravées en noir indiquent le nom des espèces naguères ici hébergées. Ours brun, plus loin zébra, puis encore X, Y, Z. De cette dernière cage, un glissement furtif me parvient. Un léger bruissement. Sur le sol en ciment, des enfants entassés geignent doucement. En vain, j'attends mes larmes, trop impuissantes, même pour pleurer. Entre mes cils, les murs de ma chambre se font jour. J'hésite à me réveiller. La nuit est noire. J'étouffe. Mon cœur bat à se rompre. Mon corps est en sueur. Les cloches de l'église sonnent la demie de 3 heures. Un rossignol s'époumonne dans l'obscurité. Un autre lui répond plus loin. Des rainettes coassent dans l'air chaud de l'été. Encore 1 heure et l'aube effacera mes frayeurs. Agathe Dupré relit encore une fois la transcription sous ses yeux. Quel rêve! Un cauchemar, plutôt. Sa patiente, Julia, bien qu'une artiste merveilleuse, elle peint des tableaux pleins de joie, souffre d'un mal profond. Son mariage part à la dérive. Un mari alcoolique et pervers narcissique. Ce cauchemar résulte de la pression qui la mine. Cette femme à qui on arrache son enfant, c'est elle, Julia. Agathe le sait. Elle est certaine d'avoir mis le doigt dessus. Julia craint d'être séparée de son enfant, contre son gré, assurément. Agathe a rarement connu une mère plus attentionnée. Son mari essaie de lui faire croire le contraire. Agathe le tient en piètre estime. Un homme qui bat sa femme chaque fois qu'il essuie un revers. Pour un oui, pour un non. Il se met en rogne et cogne. Agathe voudrait s'en empêcher, mais son mépris se transforme en haine chaque fois qu'elle pense à lui. Cet air suffisant qu'il avait la fois où il a accompagné Julia. Agathe le revoit et sa peau se hérisse, rien qu'en y pensant. Il la draguait ouvertement devant sa femme. Quel être abject. Julia doit venir à 15 heures. Déjà 15h15. Agathe craint qu'elle ne puisse venir. Cela lui arrive parfois de manquer une séance, mais d'habitude elle téléphone. Agathe suspecte qu'elle ne veut pas laisser voir son visage tuméfié dans la rue. Julia, comme toutes les femmes battues, ressent de la honte. Agathe travaille à lui faire comprendre que la seule faute incombe à son mari. Et, comme la plupart des femmes battues, Julia peine à assimiler ce fait. 15h30. Julia ne viendra plus. Agathe range un peu son bureau, remet les papiers en place, en trie d'autres et en jette quelques-uns. Julia était la dernière patiente de la journée. 15h45. Agathe quitte sa salle de thérapie et va à la cuisine. Elle met la bouilloire électrique en route et choisit un Lapsang Souchong pour son thé. L'arôme légèrement fumé lui chatouille les narines dès l'eau versée sur les feuilles qui se déplient sous l'humidité, telles des fleurs qui s'ouvrent lors d'un reportage nature en accéléré. Agathe est une grande buveuse de thé. Elle les collectionne, mais reste fidèle à 2 ou 3 sortes. Earl Grey, le matin, après une première tasse de thé vert. L'Absang Souchong est réservé aux après-midi. Qu'il vente ou qu'il pleuve, c'est là son breuvage de prédilection. Elle passe au salon où elle se niche dans son fauteuil, les pieds sur un petit banc. À sa droite, une table basse reçoit sa tasse et elle y prend son livre. Elle ne connaît pas de meilleure façon de se détendre et oublier les problèmes de ses patients qu'en s'évadant le temps d'un chapitre. Aujourd'hui, Julia flotte au-dessus des mots. son visage superposé aux lignes hante Agathe. Que lui est-il arrivé? Une rossée supplémentaire? Agathe ne peut se défaire de toutes ses interrogations. Elle se sent solidaire de Julia. Elle en connaît la raison. Julia, plus que ses autres patients, la touche au plus profond d'elle-même. Julia attend un enfant. Enceinte de 6 mois, elle veut à tout prix protéger son enfant. Elle va quitter ce mari qui la maltraite. Après la séance, elle devrait rejoindre l'asile pour femmes battues. Agathe pose son livre, porte sa tasse à la cuisine et enfile ses vêtements de sport. Basket aux pieds, bandeau anti-sueur dans les cheveux, Agathe s'élance dans l'escalier rejoindre son parcours favori. C'est décidé, si elle n'entend rien de Julia, elle téléphonera dans la journée de demain. Elle aimerait le faire tout de suite, mais craint de faire intrusion dans la vie déjà compliquée de sa patiente. Au Champ d'Arrêt, un lieu dit près de Saint-Denis de Jouet, Camille musarde dans son atelier. Dubitative, elle observe le grand tableau pour sa sœur. Elle cligne des yeux pour en chasser les larmes qui menacent de couler et lui troublent la vue. Emma l'aurait aimé. Camille ne peut s'habituer à l'idée qu'elle ne verra plus jamais Emma, ni son beau-frère, Gabriel, ni ses neveux, Kevin et Anaïs. À la rigueur, elle pourrait encore accepter leur mort, mais la façon dont ils sont décédés est trop dure. Assassinés. Non seulement sa sœur, ses enfants et son mari sont partis, mais aussi sa mère. Tous les 5 dans des conditions épouvantables. Camille ne peut s'empêcher de ressentir la culpabilité du survivant. De plus, Alexandre était son ami, du moins le pensait-elle. La vérité s'est révélée d'une incommensurable dureté et tout autre. Cela fait maintenant 3 ans, mais chaque fois qu'elle y repense, elle manque se trouver mal. Peut-être lui faudrait-il se séparer du tableau, ne plus le voir, mais elle ne peut s'y résigner. Un chaton lui saute sur le dos et vient ronronner à son oreille. Elle le caresse d'une main distraite quand elle en sent un deuxième grimper le long de sa veste et venir se nicher sur son épaule. Un blanc et un tigré. 2 et 3 mois. Des joueurs infatigables. Une compagnie joyeuse. Camille les fait descendre tous les deux et sort une toile vierge. Elle doit se remettre au travail. Elle a réussi à faire sa série des musiciens qu'elle expose à Châteauroux. Ce soir, elle ira au vernissage. Il est temps qu'elle voie du monde. La socialisation prend du temps, mais elle est parfois nécessaire. Elle sait très bien qu'une sortie, voir des gens, ne lui fera pas oublier Emma, mais pour un moment, elle entendra le bruit des conversations et pourra se mêler au public. Agathe peine à ouvrir les yeux. La chambre est encore envahie de pénombres qui voilent les teintes dans un brouillard confus et les fond dans un méli-mélo d'ombres bleutées. Il est pourtant 7h30. Elle a très mal dormi. Son rêve s'entremêlait avec celui de Julia. Elle s'est réveillée 2 ou 3 fois sans malgré tout se lever. Si, une fois, elle est descendue boire à la cuisine et se passait un glaçon dans le cou pour chasser l'impression d'étouffement qui l'oppressait. 7h45. La pendule ne connaît aucun état d'âme et marque le temps qui passe inexorablement. Agathe saute du lit, pose le pied sur la moquette et décide d'aller à la boulangerie chercher des croissants. Elle va se dorloter ce matin. L'eau tiède ruisselle avec un bruit réconfortant de cascade mêlé de senteurs de lavande. Aujourd'hui, Agathe n'a pas de patient de toute la journée. Seuls 2 rendez-vous dans la soirée. 2 clients fort sympathiques et sans complications. 2 êtres que la solitude pousse vers cette solution de s'offrir une thérapie afin d'avoir une oreille compatissante à l'écoute de leurs petits déboires quotidiens de retraités bien propres sur eux. Elle a déjà plusieurs fois essayé de les diriger vers un club ou une occupation quelconque, mais ils refusent obstinément de lâcher leur séance hebdomadaire. Tant qu'ils ne prennent pas le temps qu'elle pourrait allouer à 2 êtres réellement en souffrance, elle laisse les choses en l'état. Un jean, un chemisier blanc et une paire de mocassins en peau de chèvre. Parée après un coup de peigne rapide, Agathe descend les escaliers jusqu'à la rue. D'une allure plus tranquille, elle traverse la chaussée pour entrer à la boulangerie du coin, au bon pain frais. Comme chaque fois ou presque, elle se fait la réflexion qu'ils ne se sont pas trop creusé la tête pour baptiser leur commerce. La mère et la fille tiennent la boutique. Le père et le fils jouent les mitrons. Une entreprise familiale qui marche bien. Ils sont tous les 4 très aimables, de véritables commerçants. Il est tôt, mais il y a déjà la queue. Enfin pas très longue, mais 3 personnes sont devant elle pour se faire servir. Une dame entre 2 âges n'en finit plus de choisir des viennoiseries. Elle explique à la ronde que son petit-fils vient pour le déjeuner et elle énumère les gâteaux dont il raffole. Elle en prend un de chaque. Peut-être Agathe aurait-elle dû se contenter de biscottes ou mettre du pain à cuire au four. Trop tard. C'est son tour. Elle va pour payer quand elle voit dans le miroir de la caisse se refléter l'image du mari de sa patiente qui attend derrière elle. Elle ramasse sa monnaie, prend le pochon que lui tend la boulangère et se retourne. Elle regarde droit dans les yeux de l'époux de Julia. Elle peut difficilement prétendre ne pas l'avoir vu. 1m85 et plus. Loin de passer inaperçu. Bonjour, comment va Julia ? Bien, pourquoi ? Elle avait rendez-vous hier et elle n'est pas venue. Il sait qu'elle sait quelque chose, mais que sait-elle exactement ? Elle n'avait peut-être pas envie de vous voir, reprend-il laconiquement. Agathe se contient avec peine. Il sait très bien pourquoi elle l'interroge sur Julia. C'est probablement à cause de lui si elle n'est pas venue. Peut-être, lui renvoie-t-elle tout aussi tranquillement avec un haussement d'épaule et sort avec ses croissants frais encore chauds. 4 à 4, Agathe monte la volée de marche. Trop impatiente pour attendre l'ascenseur, elle manque trébucher et se retient de justesse à la rampe. Elle veut profiter de ce qu'il est sorti pour appeler Julia. Ainsi est-elle certaine que ce sera elle qui répondra au téléphone. Si seulement elle avait pris son portable avec elle, elle pourrait téléphoner du hall de l'immeuble et gagner un temps précieux pendant qu'il retourne chez lui. Mais elle ne s'attendait certainement pas à le voir. Essoufflée, Agathe cherche fébrilement ses clés et, enfin, avec soulagement, pousse la porte qu'elle referme d'un coup de pied derrière elle. Elle se précipite dans son bureau. Le téléphone résonne dans le vide. Elle imagine le son aigrelet d'une mélodie populaire dont elle n'arrive pas à se souvenir du nom. Elle s'impatiente. « Décroche ! Mais décroche donc » souffle-t-elle entre ses dents. Personne ne vient soulager son attente. Si son mari est absent, pourquoi Julia ne répond-elle pas ? Perplexe, Agathe repose le combiné. Julia n'oserait-elle pas répondre au téléphone ? Le mari serait-il déjà revenu ? Aujourd'hui, Rose n'a pas cours. Elle est professeure à l'université et commence souvent à 8h, ce qui lui donne peu de temps pour se prélasser. Assise à la table de la cuisine, elle contemple son mari, Frédéric, verser le café dans les tasses. Lorsqu'ils ont le bonheur d'être tous les deux ensemble à la maison, ils s'adonnent au même rituel et se retrouvent à la cuisine pour déguster une tasse. Frédéric a pour habitude de se lever très tôt. Il aime profiter du silence alentour. Quant à elle, elle préfère attendre le dernier moment et laisse souvent l'alarme du réveil retentir plusieurs fois avant de s'extirper de sous la chaleur de la couette. Une fois debout, plus rien ne peut l'arrêter. Le tout, c'est qu'elle se lève. Ensuite, pas question pour elle de musarder au jardin avant de se mettre au travail. Elle fonce à un tel point que Frédéric lui en fait la remarque au moins une fois par semaine. Mais elle est comme cela. C'est Frédéric qui a instauré la pause café. Un excellent moment pour faire le point et ils y parviennent toujours avec autant de plaisir. Le soleil danse sur le damier des carreaux rouges et blancs du sol. « Toujours pas de sucre ?» demande Frédéric taquin. « Pas question !» lui rétorque Rose admirant son athlète de mari. Frédéric s'adonne au jogging et, tous les jours, court dans la forêt proche. Rose aime mieux se rendre au sous-sol pour ses exercices physiques. Le tapis de marche lui suffit amplement, ce dont Frédéric se moque gentiment. Mais elle y tient. Elle met son temps de marche à contribution pour lire quelques articles, ce qu'elle ne pourrait pas faire en déambulant au pas de course sur les chemins forestiers. « Quel bonheur de ne pas avoir de cours !» dit Rose en s'étirant voluptueusement. « Profites-en bien. Si j'ai bien compris, les examens arrivent bientôt. »« Oui, je leur fais faire des tests en ce moment. Ils sont tous excellents, je dois dire. »« Formidable. Et comment cela se passe-t-il au refuge ?»« C'est assez tranquille, heureusement. » Rose fait du bénévolat en tant que psychologue pour un asile de femmes battues. Une accalmie dans les arrivées est grandement appréciée de tous. Nous avons enfin reçu une subvention de la ville. Cela nous permettra de faire avancer les choses. Bien. Frédéric consulte les post-it sur le frigo. Soirée à la galerie Jean-Louis Brémond. Super ! Une de mes anciennes étudiantes y expose. On peut se retrouver là-bas. J'ai un dîner de prévu avec Georges. Pas de problème, à ce soir. Bisous, mon cœur. Rose et Agathe sont attablées dans leur restaurant favori. Elles y viennent régulièrement lorsqu'elles veulent discuter tranquillement. Aujourd'hui, elles sont là car Agathe est inquiète au sujet de Julia. Elle en fait part à Rose qui, toujours pragmatique, lui a proposé de se retrouver au dîner pour pouvoir parler à leur aise de cette situation. Rose a été le directeur de thèse d'Agathe. Entre étudiante et professeur, des liens d'amitié se sont noués et Agathe a pris l'habitude de consulter son mentor quand elle se trouve face à un vrai dilemme. Selon elle, Julia est en danger et elle ne sait comment aborder le problème. Rose l'a écoutée sans l'interrompre. Elle comprend le sérieux de la situation. « Selon toi, cet homme serait capable de faire du mal à Julia ?»« Du mal, oui, et pire que ça. Il la frappe régulièrement. Mais comme je te le disais, Julia téléphone toujours lorsqu'elle doit manquer une séance. »« Et elle le fait à chaque fois ? Cela ne lui est encore jamais arrivé de ne pas le faire ?»« Jamais. Mais elle pourrait être si amochée par son mari qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de le faire, selon toi. C'est bien ce que je crains. » Dans ce cas, n'hésite pas et téléphone demain à la première heure raisonnable. C'est ce que tu penses que je devrais faire? Absolument. Je comprends que tu aies hésité aujourd'hui, mais insiste demain. Quelqu'un doit bien répondre. Tu as raison. Si le mari répond, je lui demanderai de me passer Julia. Le problème, tu vois, c'est que j'ai peur qu'il s'en prenne à Julia par ma faute si je téléphone. S'il est là, il lui dira simplement de trouver une excuse bidon, je crois. D'après ce que tu m'as raconté, le plus gros de la crise doit être passé. Si tu préfères, viens chez moi demain matin et c'est moi qui téléphonerai. Si c'est lui qui répond, je prétendrai être une démarcheuse téléphonique et si c'est Julia, je te la passe. Mais alors, comment savoir si elle est là? On trouvera quelque chose. Je ne sais pas, moi. Que nous faisons une enquête sur les femmes au sujet de leur cycle mensuel et que nous les interrogeons. Et tu crois qu'il mordra à l'hameçon? Pourquoi pas? Il ne connaît pas ma voix et il me passera sa femme, ou pas, avec une excuse. D'accord, faisons comme ça. Mais il ne travaille pas, ce mec? Pas que je sache. C'est une partie de son problème, je pense. Maintenant, allons au vernissage. Je dois retrouver Frédéric et il faut te changer les idées. Jean-Louis Bremont et Anastasia terminent de charger la voiture. Ils ont fait des achats en prévision du vernissage de ce soir. Il ne leur reste plus qu'à rejoindre Châteauroux et la galerie où il y a encore pas mal à faire avec l'installation des tables et de la collation. L'accrochage s'est fait hier. Pas tout seul, bien évidemment. Certains artistes ont des toiles plus grandes que les autres, mais Jean-Louis Bremont, en tant que photographe, a un compas dans l'œil. Il connaît son travail et, surtout encore plus, celui des autres, de manière à mettre chaque œuvre en valeur. Arrivé à la galerie, il décharge la voiture. Igor les attend déjà devant la porte. Il n'est pourtant que 10 heures, mais Igor est un perfectionniste et désire faire quelques retouches à sa présentation. Ses luminaires, créés avec du matériel de récupération, tous plus originaux les uns que les autres, portent des noms évocateurs. Psychédélique Vénus, Fleur de vie et lumière, Gold Globe. Volvic gare sa bicyclette turquoise à côté au mur près de la vitrine. Elle peint des mandalas très colorés. Berrichonne pur jus, elle s'est mise à la peinture au retour au pays après plus de 20 ans passés en Chine. Elle doit son surnom à Camille qui l'a entendu tant de fois vanter les mérites de la source minérale. Les présentoirs à bijoux d'Éric trouvent leur place dans des vitrines. Camille fait son apparition un peu plus tard. Sa série de musiciens est bien éclairée ainsi que les oiseaux de Julia. Tout est fin prêt lorsque les premiers invités passent le seuil. Grande question, le maire va-t-il venir en personne ou bien enverra-t-il un représentant? La seconde option se révèle être la bonne quand un de ses adjoints salue à la ronde. Dans un monde idéal, les invités se précipiteraient pour agiter leur chéquier et acquérir des œuvres. Hélas, ils s'empressent principalement vers la mignardise, un verre à la main, qu'ils ingurgitent à une vitesse fulgurante et s'empressent de remplir à nouveau. À croire qu'ils ne sont venus que pour cela. Agathe et Rose ont donné rendez-vous à Frédéric au coin de la rue, devant l'ancien hôtel du Faisan, et font leur entrée tous les trois ensemble. À l'inverse des autres invités, ils admirent les tableaux. Agathe se promet de revenir chercher l'un d'entre eux, car les prix sont abordables pour des créations originales et uniques. Du coin de l'œil, elle voit le mari de Julia, seul, qui serre des mains ici et là. Apparemment, il connaît du monde. Ce n'est pas une surprise que Julia soit absente, mais cela ne fait qu'approfondir l'inquiétude d'Agathe à son sujet. Allongée dans le noir, Agathe vire et tourne sous la couette. Rose a raison, il faut téléphoner pour en avoir le cœur net. Elle n'ose pas se l'avouer, mais elle a toujours peur de ce qui pourrait arriver. En dépit des années et d'un second mariage heureux, Agathe ressent encore parfois les angoisses qui l'étreignaient pendant son premier mariage. Elle aussi a connu la violence d'un homme abusif. Les nuits a tremblé dans la chambre en attendant son retour, sans pouvoir dormir, alors qu'elle ignorait l'état d'esprit dans lequel il reviendrait. Cet homme, dont elle n'ose plus prononcer le nom, l'a violée à maintes reprises. Il débarquait au milieu de la nuit et la prenait sauvagement, rapidement, seulement occupée de sa propre jouissance. Agathe n'avait pas intérêt à résister, car alors il la frappait de ses poings jusqu'à ce qu'elle cède. Oui, elle connaissait le tremblement qui la parcourait ensuite pendant qu'elle attendait qu'il s'endorme avant de passer à la salle de bain. Par une de ses lubies qui le prenait, il lui avait interdit d'aller se rafraîchir après l'amour. « Je te dégoûte, hein ? C'est ça !» lui avait-il asséné un jour en la giflant. Un sentiment de répulsion l'a fait frissonner encore rien qu'à l'idée de cet homme qui avait tout fait pour essayer de la vilir. Il lui arrivait de revenir au milieu de la nuit avec un compagnon de beuverie et de forcer Agathe à l'accepter dans leur lit. Qu'elle essaie de se débattre et les coups pleuvaient. Il n'hésitait pas à la bâillonner et l'attacher pour la rendre plus docile. Il lui chuchotait au creux de l'oreille les horreurs qu'il lui ferait subir si elle ne gardait pas les cuisses écartées pour que le copain puisse jouir tout à son aise. Une fois, il était revenu au petit matin en compagnie de 4 individus, repêchés, Dieu sait où, au cours de l'une de ses virées. Il avait fait parader Agathe nue devant eux dans le salon. Puis, il les avait enjoints à profiter d'elle sur le divan, chacun leur tour devant les autres. Cela parce qu'Agathe avait refusé quelques jours plus tôt d'aller passer une soirée dans un club échangiste. Agathe sait qu'elle ne s'endormira plus. Trop de souvenirs lugubres virevoltent dans son crâne. Elle s'empare de son ordinateur posé sur la table de chevet et s'enfonce dans une série Netflix, un épisode après l'autre, jusqu'à l'aube.